BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Les 3 heures d'arrosage quotidien de vos placements. On essaie effectivement de les rendre les plus luxuriants possibles au rythme et grâce au marché, effectivement. Et Étienne Braque qui nous accompagne. La Tour Euronext en direct. On est à une demi-heure d'ailleurs de la clôture. On va la vivre en direct grâce à vous, Étienne, dans une petite demi-heure, cette clôture européenne. Comment ça se présente ce soir ?
Eh bien, écoutez, il y a fort à parier que le CAC 40 clôture dans le rouge. Troisième séance dans le rouge, ce qui n'est pas arrivé depuis trois semaines à la Bourse de Paris. Un CAC 40 qui met en danger les 7900 points. 7926 points, c'est simple. L'indice est sur des plus bas du 16 avril dernier. Du rouge également à Wall Street, hein, qui avait ouvert dans le vert. Et puis finalement, ça se dégonfle. Pas mal d'inquiétudes par rapport à l'intelligence artificielle. AMD qui a douché les esprits. Hier, Jerome Powell, eh bien, qui n'est pas très confiant, hein, concernant des baisses de taux pour cette année. Et puis des entreprises qui déçoivent les investisseurs, à l'image de Hugo Boss, hein, qui perd quasiment 8% à Francfort avec un discours très prudent par rapport à la Chine. Et puis Novo Nordisk également, qui perd du terrain. Bref, toutes les musiques magiques, hein, qui étaient l'intelligence artificielle ou encore les traitements obésité font pitch aujourd'hui en bourse. Et donc, c'est propice à quelques prises de bénéfices.
Effectivement, et on l'observe, c'est vrai, un certain nombre de traîne magique qui tente à s'essouffler. On va en parler avec nos experts. On reviendra aussi sur la réserve fédérale américaine dans un instant, bien évidemment. Et puis la data room, ce sera à partir de 17h25. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Oh, ce soir, après la clôture de Wall Street, Apple qui va fermer le bal des publications dans l'univers des 7 magnifiques. Ce sera, enfin non, on aura Nvidia quand même le 22 mai encore. Allez, dans l'univers des GAFAM. Voilà, Apple qui tout à l'heure annoncera ses résultats. Donc, on en parlait avec John Plassard. Qu'attendre d'Apple et quelle réaction des marchés généralement après les publications d'Apple? C'était à 15h30. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible, le podcast également sur notre application BFM Bourse. Vous pouvez BFM Business, vous pouvez scanner et flasher aussi le QR code qui apparaît sur vos écrans si vous nous suivez à la radio. C'est avec BFM Business et aussi à la télévision. Le potentiel des marchés, donc, pour la suite, ils sont là, nos coéquipiers du club, ils viennent de s'installer. Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir, Michel.
Bonsoir, Guillaume.
Bienvenue. François Dossou aussi nous rejoint ce soir. Bonsoir, François.
Bonsoir, Guillaume.
Directeur de la gestion action de Siena Gestion. Ravi, messieurs, de vous accueillir. On va revenir sur la Fed, promis, dans un instant. On va parler aussi des chiffres de coûts salariaux aux États-Unis qui tendent à réaccélérer, bien sûr. Ça met un peu de pression, c'est vrai, sur les marchés. Mais d'abord, François, voilà, on avance bien maintenant dans la saison de publication. Et les marchés ont plutôt tendance quand même à reculer, là. On est sous les 8000 pour le CAC 40, on met presque en danger les 7900 points ce soir. Est-ce que la saison de publication s'avère finalement un peu décevante ou un peu trop faible? Ou au contraire, bah, on est sur une respiration de marché classique et finalement salutaire?
Je pense que quand vous regardez les résultats des entreprises, vous avez quand même des messages qui sont assez rassurants. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de mauvaises surprises? Je pense que les mauvaises surprises sont sanctionnées. Ceci dit, on a quand même des messages qui restent encore relativement rassurants et plutôt constructifs. Donc moi, je dirais que nous sommes plutôt dans une période logique de prise de profit pour un marché qui avait monté vite sur des anticipations. On reviendra tout à l'heure sur les publications du jour. On se rend compte en fait que probablement les attentes du marché, elles étaient peut-être très élevées. Et on voit paradoxalement que les titres sur lesquels les anticipations sont faibles ont même plutôt tendance à rebondir. Donc je pense qu'on est dans cette période où, de résultats où c'est un peu l'heure de vérité. Les actions qui ont bénéficié d'un momentum particulièrement favorable et qui ont progressé significativement ont plutôt tendance à redonner un peu de terrain. Mais je pense qu'à ce stade, il n'y a pas encore d'inquiétude à avoir sur la tendance moyen terme. Je pense qu'on est dans un phénomène tout simplement de réalignement des anticipations par rapport aux publications de résultats.
Est-ce que c'est la fin de la magie du coup? L'intelligence artificielle, quand il y a des annonces autour de l'IA, maintenant les titres n'explosent plus à la hausse. Même les médicaments anti-obésité, avant quand il y avait des annonces, les titres progressaient, s'envolaient à la hausse. Bah là, c'est pas le cas. Par exemple, Novo Nordisk aujourd'hui, qui relève encore une fois ses prévisions, Novo Nordisk, bah, le titre est en baisse de 2%. Ça ne marche plus.
Oui, ça ne marche plus parce qu'en fait, quelque part, quand vous regardez, c'est assez intéressant le cas de Novo Nordisk. Quand vous regardez bien les résultats, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une très bonne surprise sur les résultats, sur les activités historiques du groupe, à savoir l'insuline et le diabète. Et le marché n'achète pas. Pourquoi? Parce que le marché est focalisé sur l'obésité, sur les produits liés en fait à l'obésité. Alors qu'à ce stade, effectivement, vous avez des croissances qui sont stratosphériques, mais l'histoire ne dit pas encore qui va payer. Et donc, il y a un moment donné où, lorsque les anticipations de croissance sont aussi fortes, le marché est en droit de se poser les questions. Est-ce que cette croissance, elle est soutenable? Même si, de mon point de vue, ça ne remet pas en cause les performances de l'entreprise et sa croissance, son potentiel de croissance au moyen terme. Parce qu'en fait, c'est un marché qui est gigantesque et sur lequel, en fait, les attentes sans doute seront atteintes, mais... Là encore, c'est une question de valorisation, parce que pour juste donner une comparaison, vous êtes sur un titre qui intègre une croissance très très élevée par rapport au reste des concurrents. Quand vous regardez, vous êtes quand même à plus de 30 fois les bénéfices 2025. Quand vous regardez en PEG, c'est-à-dire vous rapportez ça à la croissance future, vous revenez à 1,7% quand vous regardez le PEG, mais vous êtes toujours au-dessus en fait de la moyenne du secteur qui est 1,5%. Mmh. Alors, qui est 1,5, pardon. Donc, ce qui se passe, c'est que...
On comprend, il y a des médicaments anti-obésité, donc on comprend que ce soit mieux valorisé.
Oui. Oui, mais vous avez quand même une incertitude sur la trajectoire de cette croissance. Et donc, l'incertitude par rapport à une croissance, c'est sûr qu'il est toujours plus simple, plus facile de décevoir quand vous avez des croissances stratosphériques. Oui. Et lorsqu'on regarde le marché aujourd'hui, les entreprises sur lesquelles, vous avez, peut-être qu'on reparlera de téléperformance, en fait, les surprises sont très, très faibles, avec des attentes très, très limitées. Et donc, les performances des titres sont... Et c'est peut-être une stratégie, et c'est peut-être un positionnement qu'il faudra adopter sur les portefeuilles dans les semaines à venir, bien mesurer, en fait, qu'est-ce qui vient du réalisable et qu'est-ce qui, de notre point de vue, est sans doute est plutôt moyen, long terme, et a été déjà beaucoup acheté.
Parce que l'anti-obésité, on connaît... Enfin, non, on ne soupçonne pas encore peut-être l'entièreté de ce marché. Il est énorme. La question qui se posera à ces acteurs, c'est seront-ils capables de délivrer, de produire autant que la demande l'exigera? C'est une des questions qui se posent.
Et qui paye?
Qui paye, effectivement. L'an dernier, par exemple, Novo Nordisk a relevé 3 fois ses prévisions. 3 fois. Là, il les relève à nouveau. Alors, c'est presque devenu business as usual. Du coup, le marché devient un peu insensible, un peu plus exigeant, sachant que Novo Nordisk... depuis le début d'année, a encore pris près de 30% en bourse. Donc ça devient peut-être un petit peu plus compliqué. Sur l'IA aussi, on va en reparler dans quelques minutes. Et puis sur le front aussi monétaire. Voilà, toujours des interrogations qui persistent sur le calendrier, le fameux calendrier des premières baisses de taux. Michel, est-ce que vous en savez beaucoup plus à l'issue de la réunion de la Fed d'hier soir là-dessus?
Le risque de hausse des taux, il est... jugé extrêmement peu probable.
Oui. Ça, on se posait encore la question il y a 24 heures, voilà, l'hypothèse d'une possible, peut-être une hausse de taux de la Fed, cette hypothèse, elle a été écartée par Jérôme Powell.
Voilà. C'est la seule chose qu'on sait de plus.
C'est la seule chose qu'on a apprise, en fait.
Oui. Donc, les débats sont ouverts. Si la Fed va baisser les taux cette année, si oui, de combien et après, jusqu'à où? Là, il n'y a aucun signal qui a été donné. La Fed insiste sur la confiance qu'elle doit avoir avant de commencer à baisser les taux, la confiance qu'elle doit avoir pour que l'inflation revienne à 2%. Et elle remarque que les chiffres vont pas dans le sens d'une modération de l'inflation. Alors, vous avez mentionné les coûts salariaux unitaires à 4,7% en an. Cette semaine, on a eu les coûts salariaux qui étaient à 4,6.
Oui, c'est supérieur aux attentes.
Voilà, tout est supérieur, donc 4,9, je crois, tout est supérieur aux attentes. Et on est des coûts salariaux unitaires à 4,9, c'est très très loin de la tendance requise. Hein. Il faudrait être plutôt autour de 3, quoi.
Et donc, pour vous, la Fed attend, il faut que les indicateurs sur l'inflation convergent davantage vers l'objectif pour que la Fed commence à baisser ses taux. Pour vous, ce sera quand?
Alors, nous, on dit pas de baisse des taux cette année.
Ah.
Après, le marché anticipe qu'il y ait 30 points de baisse de taux cette année. Mais je crois qu'il est maintenant acquis que la Fed ne baissera pas les taux cet été. Quoi. Cet été, ça paraît extrêmement peu probable. Tout ça parce qu'en fait, quand on regarde la dynamique des derniers chiffres d'inflation... Le momentum sur les 3 derniers mois, ça ne fait que remonter. Quand on parle de l'inflation sous-jacente, core CPI, core PCE, on est sur des tendances au-dessus de 4,5% l'an sur 3 mois. Il faudrait qu'on ait des chiffres plus de 3 mois à 2%, quoi. Et puis il y a le temps de réagir.
Un 2,7%, la Fed ne pourra pas s'en accommoder. Il faudra qu'on aille à 2,1, mais pas à 2,7. Ça n'ira pas.
Ce n'est pas une science précise, mais surtout, il faut une série. Il faut que les étoiles soient alignées pendant au moins 3 mois consécutifs.
Oui.
Et si vous avez un chiffre à 2 et des poussières, et qu'après ça remonte à 3 et des poussières, Votre degré de confiance qu'on va dans le bon sens, il n'est pas acquis.
Donc pour l'instant, statu quo, mais parallèlement, la Fed annonce un ralentissement de la réduction de bilan.
Oui.
Alors là-dessus, c'est pour le coup un peu plus souple. Du coup, voilà, c'est une poire pour la soif en l'occurrence. Sur les taux, il va falloir rester patient, mais en échange, on fait un petit geste sur le bilan. C'est comme ça qu'on doit l'interpréter ou pas?
Non, c'est lié à d'autres sujets. C'est lié à l'abondance de la liquidité dans le système. On se souvient que en 2019, quand la Fed commençait à augmenter ses taux, à ce moment-là, d'ailleurs, la BCE baissait ses taux, il y avait eu des problèmes de liquidité. Il y a eu l'an dernier, quand il y a des problèmes dans le secteur bancaire américain, ils ont changé toutes les facilités de repo. Donc ils savent que le marché, que la liquidité en bons du trésor américain, elle peut parfois être mise sous pression. Donc voilà, ils se donnent du temps, ils y vont très graduellement.
On a eu une légère alerte sur le 5 ans américain, par exemple. Il y a eu une adjudication il y a quelques jours sur le 5 ans américain qui a eu du mal à trouver de la demande. Ça a surpris tout le monde, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, c'est face à ce genre d'alerte qu'effectivement, la Fed...
Oui, on y va doucement. Oui. Mais bon, en même temps, la ligne de mire, c'est quand même de continuer à faire baisser le bilan de la Fed, hein, qui est à plus de 8 000 milliards de dollars. Il y a encore beaucoup de marge.
François, entre la Fed qui, décidément, est partie pour prendre son temps avant de baisser les taux et la BCE qui devrait démarrer dès le mois de juin, est-ce que vous vous dites que là, justement, cet alignement d'astres sera plus favorable au marché européen ? On aura les premières baisses de taux en Europe avant les États-Unis ?
Oui, si vous voulez, en fait... oui et non. En fait, en réalité, ce qui va se passer, c'est que, comme vous savez, le marché américain, c'est quand même le marché leader. Je pense que le marché européen ne réussira pas totalement à s'affranchir de la tendance du marché américain. Et ce qu'on est en train de voir sur le marché américain, c'est justement le fait que ces taux ne soient pas baissés et qu'on soit sur des taux longs qui ont du mal à baisser. Vous voyez les valeurs de croissance, et notamment le Nasdaq, qui est en train de reculer fortement. Et quand le Nasdaq recule, quand les indices américains reculent, les indices européens aussi ont du mal à surperformer. Donc, je pense que oui, en termes de dynamique, ce qu'on est en train de dire quand même, c'est que la croissance reste forte aux États-Unis, vous avez des taux qui restent aussi très très élevés, les marchés qui sont en train de respirer, mais vous avez quand même le revers de la médaille. Comme vous savez, les marchés américains, eux, ils ont le dollar. Ils ont le dollar et on commence à voir quand même un certain nombre de la volatilité, notamment sur le yen. Comme vous savez, le dollar, c'est un peu le problème des autres. C'est la monnaie des Américains, mais c'est le problème des autres. Et on commence à voir quand même des problématiques sur les différentiels de change, sur des niveaux historiquement bas sur le yen. Et tout ceci, c'est appelé à un moment donné à se réajuster. Et donc, probablement que l'Europe, avec sa baisse de taux, plus avancé, va avoir donc une dynamique qui va enfoncer encore le dollar, qui va encore donner plus de force au dollar et donc qui va affaiblir davantage l'euro. Pour autant, je pense pas que ce soit forcément une très bonne nouvelle. Ça va aider les entreprises européennes parce que, en fait, quelque part, des taux plus bas, c'est toujours des conditions de financement plus faciles. Mais en fait, le facteur commun, il sera quand même intéressant de regarder ce qui se passe aux États-Unis parce que ça va être quand même déterminant sur l'évolution des actifs risqués à travers le monde.
Oui, l'Europe n'arrivera pas à s'affranchir de la tendance américaine. On peut espérer peut-être un peu de surperformance en Europe. Peut-être si la BCE baisse ses taux avant la Fed, mais peut-être pas grand-chose. On en reparle dans un instant. Le club se poursuit, messieurs. Auparavant, oui, on accélère. On entre dans la dernière ligne droite de cette séance. On est à 18 minutes à peine de la clôture et on s'oriente vers une baisse tout à l'heure. Le CAC 40 est en repli en ce moment de 0,7%. Effectivement, voilà, on a eu un mois d'avril assez pluvieux quand même en bourse. -2,7% le CAC en avril. On entame le mois de mai encore sous la pluie. Ça continue, -0,7% supplémentaire donc sur le CAC aujourd'hui. Stellantis, comme mardi, est en net repli. Lanterne rouge du CAC. Le titre Stellantis avait perdu à peu près 10% mardi. Là, ça continue. -4% encore ce soir pour Stellantis. Repli aussi pour ST Microelectronics, -3,5% avec AMD hein, qui a beaucoup déçu aux États-Unis. Et puis à la hausse, à l'inverse, Téléperformance. Waouh, qui accélère vraiment à la hausse, à l'approche de la clôture. On gagne désormais 14% sur ce titre Téléperformance. On en parle avec ce soir pour nous accompagner Michel Martinez, Société Générale CIB, et François Dossou pour Siena Gestion. Téléperformance, François, +14%. On parlait de ces méga trends du début d'année qui tentent à s'essouffler sur l'IA. Pareil, la magie semble en bourse, hein, je ne parle pas technologiquement, je ne parle pas industriellement, je parle boursièrement parlant. La magie semble un petit peu s'éteindre, en tout cas se calmer sur l'intelligence artificielle. Est-ce que les groupes qui avaient pâti en bourse de l'irruption de l'IA, bah, du coup, peuvent en profiter pour ressurgir? Téléperf, ce soir, gagne 14%.
Alors, je pense que malheureusement, il n'y a encore pas de relation de cause à effet. Demain, on va apprendre, en fait, que c'est les shorts qui se sont rachetés sur un titre qui devient extrêmement volatile. Ah oui. Pour une simple et bonne raison, c'est que le marché a considéré qu'en fait, que c'était une entreprise qui allait souffrir du fait de l'intelligence artificielle. Et malheureusement, à ce stade, on n'a toujours pas la réponse, y compris le management n'est pas capable de nous dire, en fait, quel sera l'impact de l'IA sur ses activités. Il continue à avoir une position plutôt positive en considérant que c'est un accélérateur en termes de profitabilité et que l'IA ne va pas se substituer, en fait, à son activité. Mais à ce stade, si vous voulez, une hirondelle ne fait pas le printemps. Cette publication, même si elle est supérieure aux attentes, je pense que le mouvement sur le titre aujourd'hui, c'est plus du rattrapage qu'un mouvement de tendance de fond, parce qu'il y a encore beaucoup d'ombre, de zones d'ombre sur le titre avant que nous puissions en fait avoir... l'histoire ne sera pas un long fleuve tranquille.
Et même techniquement, Jean-Louis Cussac qui était avec nous tout à l'heure pour Perceval, c'était à 16h40 à peu près dans la famille BFM Bourse, il nous disait techniquement parlant, téléperformance, non, la hausse du jour c'est du feu de paille, sans doute pas de potentiel supplémentaire pour la suite, en tout cas pas très important ni durable, c'est ce qu'il nous disait. Si vous l'avez raté en direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. Michel, vous regardez tout ça, bien sûr, avec votre œil de macroéconomiste. Les marchés qui doutent un petit peu, là, en ce début de mois de mai. Est-ce que l'Europe a néanmoins, économiquement, une carte à jouer, là? On a vu un chiffre de croissance au premier trimestre en Europe bien meilleur que ce que laissait augurer la dynamique de la fin 2023. Ça semble s'améliorer sur le front de la croissance et sur le front de l'inflation aussi. Elle ralentit un petit peu, même dans les services. Est-ce que là, pour le coup, on a une forme de blue sky? Je ne parle pas boursièrement, hein. On a compris, François, vous êtes prudent boursièrement. Mais économiquement, une forme de ciel un peu plus bleu à venir pour l'économie européenne, Michel.
Alors, il ne sera pas très bleu, il ne sera pas, il y aura pas un soleil brillant. Mais oui, je pense qu'il y a, pas mal d'arguments pour dire qu'on a passé le pire des différentes crises qu'on a connues. Et en particulier, l'impact de la hausse de l'inflation, il est derrière nous maintenant. Alors c'est vrai, l'an dernier, on a eu 4 trimestres consécutifs à zéro de croissance en zone euro, donc 0,3. 0,3, on multiplie par 4, ça fait autour de 1 et des poussières. Je pense que c'est le rythme de croissance auquel il faut s'attendre, voire même légèrement inférieur à ça cette année. Ça suffit pour faire tenir l'économie, faire tenir le marché du travail, tout simplement parce que c'est probablement proche du potentiel de croissance. Donc c'est un rythme de croisière, je dirais, pour la zone euro qui nous attend cette année. Alors vous mentionnez l'inflation, c'est vrai qu'elle décélère un peu, l'inflation totale surtout, 2,4%, l'inflation domestique, 2,7%, les services, 3,7%. Après, quand on regarde l'inflation totale, elle est 2,4%, il y a de fortes chances qu'elle se passe à 2, voire en dessous de 2 cet été. Et donc, c'est pour ça que la BCE se sent confiante à signaler qu'à moins d'énormes surprises, elle baissera les taux en juin, et probablement au moins une deuxième fois. Maintenant, sous l'inflation, quand on regarde l'inflation sous-jacente, quand on regarde le momentum, en fait, les trois derniers mois, ça reste au-dessus de 3% quand même. Donc, les taux, les glissements annuels d'un an sur un an, ils baissent, mais en instantané, ça remonte même plutôt.
Comment on l'explique ça, Michel? C'est les matières premières qui ont rebondi un petit peu ces derniers mois?
Non, là je parle de l'inflation domestique.
Oui, d'accord. Sous-jacente, oui.
Sous-jacente, oui.
Donc on est dans des salaires qui réaccélèrent un petit peu aussi?
C'est une combinaison de facteurs. Il y a des salaires qui, alors je ne sais pas s'ils rebondissent, mais leur progression reste conséquente, au-dessus de 4%. On a aussi probablement une faible productivité, des marges de l'entreprise, on en parle, ça a été dit au départ, mais il y a quelques informations à la baisse, mais dans l'ensemble, on a plutôt des profits qui tiennent. C'est plutôt les valorisations qui s'ajustent, mais les résultats eux-mêmes, ils restent corrects, ils ne sont pas décevants en moyenne. Ça traduit le fait que les entreprises peuvent conserver leurs marges et ça se voit in fine dans les prix aux consommateurs. Et puis alors ça concerne essentiellement les services.
Et je vous écoute, en fait j'ai le sentiment que tout va quasiment bien, quoi. Enfin, la croissance n'est pas mirifique en Europe, on est bien d'accord, mais on a une dynamique qui est là, on est proche désormais du potentiel de croissance. Vous parliez de rythme de croisière. Sur l'inflation, attention, il y a des petits signaux. Mais enfin, la BCE pourra quand même confortablement commencer à baisser ses taux au mois de juin. Enfin, j'ai l'impression que là, on entre dans une phase... On est bien, quoi. On est plutôt confortable, Michel.
Il y a beaucoup...
L'emploi est au plus bas historique, toujours en zone euro.
Voilà,
le chômage est au plus bas historique.
L'emploi, oui. Alors, je ne sais pas si tout est bien, mais on pourrait toujours rêver mieux. Mais c'est vrai que...
Et puis ici, ça se fait pas au prix d'un déficit en hausse comme aux États-Unis. Enfin, les déficits progressent en Europe, mais pas autant qu'aux États-Unis.
Ils restent quand même élevés.
Oui, bien sûr.
Ils restent quand même élevés.
Mais ils progressent moins qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, leur croissance, elle est financée à prix d'un endettement et d'un déficit vraiment compliqué.
Il y a eu un stimulus budgétaire colossal l'an dernier aux États-Unis, là, qui se resserre un peu. C'est moins vrai en Europe, mais les déficits publics restent quand même élevés en Europe. Tout se met en place pour que la BCE puisse baisser les taux.
Et un vrai cycle ou juste une ou deux baisses comme ça?
Ça, c'est la question. Ouais. C'est la question. Nous, on table sur des baisses de taux tous les trimestres, 25 points de base, ce qui serait lent, un rythme lent, mais avec un degré de confiance qui n'est pas extraordinaire, sauf pour les deux premières baisses. Donc, je pense qu'il est acquis que la BCE baissera les taux de 4 à 3,5. Mmh. On peut dire qu'à 3,5, on sera en territoire encore restrictif. Mais est-ce que la BCE peut baisser à 3, 2,5, 2, on a moins de confiance.
Vous nous suivez à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux aussi. On vous interroge chaque jour, vous tous qui nous suivez, sur notre fil X et notre fil LinkedIn, BFM Bourse. La question du jour, elle concerne Total Energy, une nouvelle fois, parce que Bruno Le Maire a remis une pièce dans la thématique Total Energy ce matin, en expliquant, il était l'invité de BFM TV, en expliquant qu'il allait se battre pour que la cotation principale de Total Energy reste en France et non pas à Wall Street. Et la question qu'on vous pose, c'est la suivante. Et vous, en tant qu'actionnaire, est-ce que vous préféreriez finalement Total Energy principalement coté à Wall Street pour peut-être mieux se valoriser ou rester à Paris, garder Paris comme place principale de cotation? Vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir voté. François, du point de vue de l'actionnaire de Total Energy, plutôt Paris ou plutôt Wall Street?
Moi, en tant qu'investisseur, j'ai pas de choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, à la fin, ce qui m'importe quand je regarde une entreprise, c'est la manière dont elle est valorisée. Bon, qu'elle soit dans un endroit sur une place de cotation où il y a davantage de flux, je pense que ça peut être qu'un point positif. Mais là encore, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien par rapport à cette volonté de vouloir rester, Total coté sur Paris. Parce qu'en fait, ça dépend pour quel investisseur. Parce que je rappelle quand même que sur la version... V3 du label, en fait, la question ne se pose pas. Vous ne pouvez pas être...
Le label ISR exclut les pétrolières.
Voilà, ouais. Exclut les pétrolières, et je pense que c'est passé aussi entre les mains du même ministre qui a mis le cachet. Donc, je suppose que c'est pour défendre plutôt des actionnaires qui ne sont des investisseurs, qui ne sont pas au label. Mais peu importe, je pense que dans tous les cas, une approche qui consisterait à exclure de manière générale les pétrolières, et donc qui serait en fait une des raisons pour lesquelles Total irait aux États-Unis, parce que les règles sembleraient plus abordables et moins complexes de l'autre côté. Je pense qu'une telle attitude en fait ne serait pas forcément créatrice de valeur, parce que quand vous achetez une valeur, vous l'achetez pour ses perspectives de croissance, vous l'achetez pour sa décote, vous l'achetez pour sa qualité extra-financière. Et dans sa qualité extra-financière, en l'occurrence, ce qui rentre en compte, ce n'est pas que l'environnement, il y a aussi le social, il y a la gouvernance. Et donc, acheter du Total, si vous pouvez le faire, c'est d'abord regarder ses fondamentaux financiers et extra-financiers, plutôt que de savoir s'il est coté à Paris
ou
bien aux États-Unis.
Les équivalents de Total Energy sont mieux valorisés à Wall Street que ne l'est Total Energy à Paris. On pourrait dire la même chose dans l'anti-obésité. Et là, Lilly, c'est une valorisation 30% supérieure à celle de Novo Nordisk. Et pourtant, les deux fabriquent les mêmes médicaments, les médicaments qui visent à limiter l'obésité. Les deux le font, et pourtant, c'est l'Américain qui est le mieux valorisé. Oui. Donc, je suis investisseur, je me dis peut-être que c'est à Wall Street que mon avenir est le plus prometteur, quoi.
Oui, à part qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas comment est-ce que l'opération va se faire, mais si elle reste cotée aussi à Paris comme place secondaire. Enfin, si vous voulez, ce sera le travail des arbitragistes. Les investisseurs qui resteront sur Paris, ils bénéficieront aussi de la performance du titre qui est coté à New York.
D'accord.
En fait, vous avez juste...
Ça ne va pas siphonner, ça va pas siphonner les volumes sur le titre à
Par
Paris.
Par contre, si vous me posez la question en tant qu'investisseur, moi je souhaite que Paris, que Total reste sur Paris et surtout en Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez un marché qui va s'appauvrir mécaniquement. En fait, si vous commencez à transférer, si toutes les entreprises se mettent à... je pense que Total... comment dirais-je, la France a plus besoin d'un Total que les Américains ont besoin dans leur indice d'un Total. Hein. Je pense que ça ne manquera pas d'avoir Total. Par contre, nous, on aura un marché qui mécaniquement va plutôt avoir tendance à s'appauvrir.
Étienne nous appelle, on est à 6 minutes de la clôture. 6 minutes maintenant depuis la Tour Euronext, on va la vivre grâce à lui en direct, cette clôture des marchés européens. Comment ça se présente ce soir, Étienne ?
Bah plutôt mal avec un CAC 40 qui est dans le rouge. Alors rien de bien catastrophique hein, avec un indice qui pour l'instant perd 0,8%, mais mine de rien c'est la troisième baisse consécutive. Ce n'est pas arrivé depuis 3 semaines à la Bourse de Paris, avec un indice qui est sous les 8000 points à 7921 points. 2 milliards d'euros négociés pour l'instant dans le CAC 40, avec du côté de l'Eurostoxx 50 les banques qui surperforment, mais ce n'est pas suffisant. Manque de catalyseur à court terme pour aller plus loin, alors que du côté de Wall Street les trois indices repassent dans le vert, avec notamment la publication d'Amazon qui continue d'être saluée, avant bien sûr Apple qui va dévoiler ses résultats après la clôture.
Effectivement, et puis une autre valeur à surveiller aujourd'hui en Europe, si vous aimez le foot en plus ça va vous plaire, le Borussia Dortmund. Figurez-vous qu'après sa victoire hier contre le PSG en demi-finale aller de la Ligue des Champions, bien le titre, parce que le club est coté en bourse, figurez-vous, le titre Borussia Dortmund gagne en ce moment 4,5%. Voilà, les pauvres, ils vont subir une sacrée déverrouillée aussi en bourse la semaine prochaine au match retour.
Absolument.
Allez, on sent le fan de foot. Effectivement, 17h30, on entre dans la data room. C'est votre hub de data. Oui, votre hub de data. Chaque soir, juste avant la clôture, les datas précieuses de nos experts François et Michel. Êtes-vous prêts ?
Oui.
On va démarrer avec Michel Martinez. Michel, votre data ce soir, votre chiffre, 4%.
Oui, j'ai choisi 4%. 4%, c'est l'estimation par le marché du taux terminal des Fed Funds. C'est le point bas où la Fed va s'arrêter, va baisser les taux. Aujourd'hui, on est au-dessus de 5, hein, entre 5, autour de 5,2. Et le marché anticipe que ça baissera à 4, mais pas plus bas que 4. Et autrement dit, c'est... Maintenant, on imagine un monde où la Fed gagnerait la bataille contre l'inflation qu'elle ramènerait à 2, mais ne baisserait pas les taux au-dessus de 4. Donc forcément, ça a plein d'applications, y compris sur les obligations du Trésor américain, où les rendements devraient être supérieurs à 4. C'est quand même un changement notable par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. Mais il faut avoir aussi ce chiffre avec beaucoup d'humilité, parce que cette estimation... de taux terminaux, cette anticipation par les marchés, elle était à 3 il y a un an, elle était à 2 il y a 2 ans.
Ah oui, c'est volatile.
Ça change beaucoup, mais ça reflète quand même pour le moment l'idée qu'on a changé de régime économique et qu'on vivra avec un monde plus inflationniste. Et pour lutter contre l'inflation, il faudra maintenir des taux d'intérêt plus élevés.
Mais un monde un peu plus inflationniste, on imagine que ça nourrisse une croissance un peu plus forte peut-être que par le passé, on peut l'espérer.
En volume, non.
Pas forcément.
Pas forcément. Une croissance américaine, probablement de l'ordre de 2%, un peu moins en volume, mais plus d'inflation qu'auparavant, et surtout les taux d'intérêt plus élevés. Beaucoup plus élevés qu'auparavant.
4% donc, cette data. Vous vous êtes montré généreux, Michel, avec nous. À votre tour, François, de vous livrer votre data, votre chiffre, ce soir, $10,000.
$10,000, donc c'est le cours de la tonne de cuivre qui a été franchie de manière symbolique la semaine dernière. Alors, on parlait tout à l'heure d'inflation. Alors, les explications, hein, vous l'avez un peu, et c'est peut-être une zone d'inquiétude par rapport à un scénario où l'inflation va se réduire et va baisser de manière progressive. C'est qu'on voit quand même que l'essentiel de l'inflation, une partie de l'inflation, était liée à des effets de base. Et paradoxalement, on voit en ce moment les cours des matières premières, le zinc plus 21% en un mois, donc 18% pour le cuivre depuis fin février. Vous avez un certain nombre d'indicateurs qui montre quand même que les matières premières sont en train de reprendre un momentum positif. Et pour ne rien arranger par rapport aux décisions des banques centrales, en fait, c'est assez général. Et vous avez des problématiques d'offres sur lesquelles je ne reviendrai pas. La plus grande mine de cuivre, Cobre Panama, a été fermée. Vous avez des problèmes en Zambie, mais vous avez aussi des problèmes en Amérique du Sud suite à des grèves. Oui. Donc, vous avez des problématiques d'offres, alors que la demande, en fait, elle reste toujours très, très forte. Une demande conjoncturelle avec le rebond de l'activité chinoise, mais une demande plus structurelle avec la demande de cuivre pour l'électrification et pour une économie plus décarbonée. Oui. Donc, vous avez des problématiques d'offres avec une demande qui ne faiblit pas.
Vous avez
quand même un sujet.
Oui, la transition énergétique a besoin de cuivre, mais même le cloud et l'intelligence artificielle.
Absolument.
Tout ça est très gourmand en électricité, il faut du cuivre pour
prendre
de l'électricité.
Oui. Absolument. Et donc, je pense qu'il faut surveiller, dans les semaines à venir, il faudra surveiller ce seuil qui, pour le moment, est symbolique, mais il ne faudrait pas qu'il se transforme en cauchemar, en fait, pour les banquiers centraux.
Oui, 10 000 dollars la tonne de cuivre. Les matières premières, c'est un sujet d'inquiétude, justement, pour l'inflation à venir, Michel, ou pas encore?
À ce stade, non, parce que c'est surtout les matières premières énergétiques, l'alimentation, qui ont un impact direct sur la consommation. Voilà, donc non, à ce stade, c'est comme ça a été dit, c'est plutôt des tendances de très long terme. Oui. Par exemple, la hausse du cuivre, si elle est durable, ça rentre dans tout le coût de la transition climatique, le prix des voitures. Mais c'est des mouvements plutôt de long terme, ça.
Merci messieurs. La Data Room, chaque soir, juste avant la clôture qui approche, on va appeler Étienne dans un instant à la tour Euronext. François Dossou nous accompagnait pour Siena Gestion. Michel Martinez également, Société Générale CIB. On se retrouve dans une poignée de secondes. Les datas de la séance du jour sont réactualisées aussi seconde après seconde sur notre application BFM Business. A tout de suite.
Merci.
BFM Business, BFM Bourse. La clôture à Euronext.
Étienne Brac avec nous pour cette clôture effectivement des marchés européens. La première clôture du mois de mai pour le CAC 40. Comment termine-t-on, Étienne ?
Dans le rouge, avec un CAC 40 qui a perdu les 8000 points, 7914 points ce soir à la clôture. C'est une baisse de 0,88% à 6 points des plus bas niveaux touchés aujourd'hui en séance. Et un CAC 40 surtout qui clôture sur des plus bas du 22 février à la clôture. Pas en séance, mais à la clôture 7914. C'est une première depuis le 22 février. Trois séances dans le rouge. Mine de rien, ce n'est pas arrivé depuis trois semaines, avec notamment les grosses pondérations qui ont pesé sur lundi. À l'image de Total Energy, quelques prises de bénéfices, moins 2,5%, 66,85€. Stellantis, qui avait perdu 10% mardi, perd à nouveau 4,3% à 19,97€. Vous avez STM qui plie de plus de 3,5% dans le siège de la publication de AMD, qui a douché les esprits à Wall Street mardi en ce qui concerne les attentes par rapport à l'intelligence artificielle. Et puis à l'inverse, le marché revient sur certaines valeurs qui ont pris le bouillon ces derniers mois, où il n'y avait pas beaucoup d'attentes. Et en fait, le fait qu'il confirme leur perspective, ça rassurait le marché. C'est le cas de deux valeurs. Téléperformance, plus forte hausse du CAC 40, plus 13,8% à 97,32€, quand Worldline, de son côté, hors CAC 40, prend plus de 10% à 10,80€. Parmi les publications marquantes de cette séance, à souligner Imerys, qui gagne plus de 12% à la clôture. Vous avez ArcelorMittal, qui gagne plus de 3% à 24,33€. Et puis le secteur bancaire également, qui surperforme avec ING, qui gagne plus de 6%. C'est la plus forte hausse de loin de l'Eurostoxx 50, avec un programme de rachat d'action de plus de 2 milliards d'euros, un groupe qui confirme ses objectifs. Ça sera à suivre notamment demain en ce qui concerne Société Générale et Crédit Agricole, qui dévoileront leur vente du premier trimestre. Le CAC 40 donc qui baisse de 0,8% ce soir à la clôture et qui met en danger les 7900 points, 7914 points, le tout avec du volume 3,6 milliards d'euros négociés ce soir dans le CAC 40.
Et Jean-Louis Cussac est avec nous depuis Perceval. Rebonsoir Jean-Louis, quelle leçon tirée de cette clôture pour le CAC ?
Que c'est pas si mal que ça, que les marchés et actions digèrent bien toutes les nouvelles, y compris les nouvelles un peu gênantes, hein, comme la fameuse phrase, la poursuite du repli de l'inflation devrait permettre à la Fed de baisser ses taux. Mais on va maintenant attendre les prochaines statistiques qui seront essentielles pour connaître le calendrier, etc. Mais Voilà, c'est toujours la même chose. Et dans ce contexte, je trouve que ben, les marchés sont plutôt pas mal. Ils ont plutôt tendance à voir les choses du bon côté. On fait 3,5 milliards en réaction à de nombreuses publications. Voilà, et y a pas de drame. Stellantis, c'est la plus forte baisse, mais bon, c'est pas trop méchant. Elle continue, ok, la baisse d'hier, c'est violent, mais la hausse a été violente également, et Dieu sait si on en a parlé. Téléperformance, bon, ben, c'est une forte hausse, mais là aussi, il y a eu des fortes baisses précédemment. Donc voilà, on a des marchés qui sont sensibles au taux, ils vont continuer à les regarder de près. On est au-dessus de 7815, donc je répète, pour moi, ça va. Ce sont des zones d'achat, de chasse aux bonnes affaires, et pour l'instant ça se passe normalement. Il n'y a pas de conclusion, si vous voulez, forte à tirer d'une séance comme celle-ci, même si on termine au plus bas.
Certaines biotech retrouvent du potentiel, c'est Marc Lebozec qui nous disait, c'était à 16h20 en direct dans Thème d'avenir. Si vous avez raté ce moment, le replay est disponible sur notre site BFM Bourse et l'application BFM Business, bien évidemment aussi. Jean-Louis, vous restez avec nous, on va continuer de débriefer cette séance et répondre aux questions que vous nous laissez chaque jour aussi sur nos réseaux sociaux, vous tous qui nous suivez en direct, là, il est 17h40 à la radio, à la télé, mais aussi notre fil X et notre fil LinkedIn. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Grâce ce soir à Aymeric Lang pour Erasmus Gestion. Bonsoir Aymeric.
Bonsoir Guillaume.
Eric Blaine aussi nous accompagne depuis les bureaux de Swiss Life Banque Privée. Bonsoir Eric. Et ravi également de vous retrouver. Oh, vous faites la tête, hein, le PSG a perdu hier soir, Aymeric. Oui, je vois. Oui. Et en face de vous, figurez-vous que vous êtes en duo ce soir avec Eric Blaine. C'est lui qui a acheté ce soir Borussia Dortmund en bourse. Le titre Borussia Dortmund, figurez-vous que le club qui a battu hier soir le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions, demi-finale aller, hein, il y a encore un espoir pour le retour, eh bien le titre de Borussia Dortmund a progressé ce soir de 4,5% après cette belle victoire. Désolé, Aymeric.
Aucun problème pour moi.
Ouais. Eric, fan de foot, c'est vous qui avez acheté le titre Borussia Dortmund aujourd'hui ?
Alors, je l'ai regardé monter et je me suis dit, mais ils sont cinglés quand même, parce qu'il y a le match retour et on est quand même avantagés. Donc, je suis pas sûr que ce soit moi qui ai acheté. Donc, je vais regarder les choses et je suis dubitatif.
Attention, retour de flamme pour ceux qui ont acheté Borussia Dortmund aujourd'hui. Oui, le match retour, c'est la semaine prochaine, effectivement. En tout cas, ce soir, 4% de hausse pour cette valeur. Bon, trêve de plaisanterie, messieurs. On est ravis de vous retrouver. Première séance du mois de mai, après un mois d'avril quand même pluvieux en bourse. Le CAC 40 avait perdu 2,7% en avril. On se disait, ben voilà, le mois de mai arrive, fais ce qu'il te plaît. Pas du tout. Encore en baisse, le CAC 40 pour entamer le mois de mai. Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé dans le marché ? On voit par exemple l'intelligence artificielle, ça marche un peu moins. Même l'anti-obésité, Novo Nordisk relève encore ses prévisions quand même. Le titre recule aujourd'hui, Novo Nordisk, moins 2%. Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé dans ce qui faisait la magie du marché en début d'année ?
Je pense que le marché a quand même très bien débuté. On a quand même une belle hausse sur les premiers mois dans un contexte de hausse des taux. Il y a quand même des surprises négatives sur l'inflation. Et pourtant, les marchés continuent de monter. Donc, je trouve que c'est plutôt une normalisation. Je vois rien de très inquiétant dans cette consolidation que je trouve assez saine. Alors effectivement, il y a eu quelques déceptions sur l'intelligence artificielle, notamment les résultats d'AMD, mais ça faisait suite à une euphorie sur le secteur. Donc je vois rien de dramatique à cette consolidation et rien de structurel et pas de gros changements à mes yeux.
Eric, Novo Nordisk ce soir perd plus de 2% alors que le groupe annonce de beaux résultats quand même et relève encore ses prévisions. Et pourtant, on est dans l'anti-obésité et là, ça semble plus autant marcher. Alors Eli Lilly, qui avait publié aussi il y a deux jours, là, ça marchait pour Eli Lilly. Dès qu'on est aux États-Unis, on parvient à mieux se valoriser. En revanche, Novo Nordisk en Europe, ben voilà, aggrave son petit retard de valorisation sur Eli Lilly. Comment est-ce que vous regardez la réaction du marché à la publi de Novo Nordisk aujourd'hui, Eric ?
Moi, je ne suis pas très inquiet, en fait, hein, quand même. On a un vrai succès des traitements anti-obésité, quand même. Ça ne se dément toujours pas. Les chiffres sont quand même bons, au-dessus des attentes. Alors, le marché est peut-être un petit peu déçu, mais quand même, ça, le sujet, il n'est pas la demande, hein, il est vraiment l'offre. C'est-à-dire, est-ce que les capacités de production augmentent ? Est-ce qu'elles augmentent assez vite vis-à-vis de la demande ? Et moi, entre Eli Lilly et Novo Nordisk, les différences, elles sont assez intéressantes. Novo Nordisk, c'est un pur player de l'obésité. Donc, on est sur vraiment 100% focalisé là-dessus. Et Eli Lilly, non, c'est plus diversifié. Mais par contre, c'est un groupe américain avec sa puissance de distribution et c'est un produit un peu plus efficace. Alors, est-ce qu'on veut être sur celui qui est le pure player ou est-ce qu'on veut être sur celui qui a l'avantage américain ? Mm-hmm. Bon, le marché a décidé sur ses publications d'être à l'avantage de Eli Lilly. Perso, je pense que Novo Nordisk c'est très bien aussi pour celui qui investit en Europe. Hein, pas de sujet
particulier. Ils sont peut-être un peu.
C'est pas étonnant de consolider un peu.
Et là, Lily peut-être un peu mieux diversifiée. Enfin, comment est-ce que vous interprétez le fait que Novo Nordisk ce soir recule, Henrik?
Il y a eu aussi une inquiétude sur les sur l'aspect prix de leur médicament anti-obésité. Ça, ils se sont montrés assez rassurants pendant le call. Et d'ailleurs, le titre s'est bien repris pendant l'appel téléphonique qui a fait suite à la publication. La baisse des prix vient simplement compenser la très forte hausse des volumes, donc il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. Quand même, il y a des bonnes nouvelles à venir potentielles pour Novo Nordisk, c'est ça qui nous rend assez positifs sur la valeur. Il y a notamment le possible traité anti-obésité aux États-Unis qui peut être un gros changement pour la société, ça peut lancer une grosse dynamique pour Novo Nordisk. Et l'autre élément, c'est aussi l'utilisation de leurs médicaments pour le traitement du syndrome Nash, la maladie du foie gras. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles qui pourraient être validées dans les prochains mois, et ça pourrait redonner une bonne tendance au titre. Et en valorisation, le retard est quand même assez important. On est quasiment du simple au double, hein, multiple résultat opérationnel. Donc c'est pour ça que nous, on reste très positif sur Novo Nordisk.
Oui, même si, effectivement, petit retard de valorisation désormais qui tend à s'accroître par rapport à Eli Lilly, mais aussi peut-être un portefeuille de médicaments sur Eli Lilly un peu plus dynamique, quoi, on va le dire comme
plus
ça.
Diversifié. Ouais.
Bon, en tout cas, ce soir, parmi les valeurs qui se distinguent, on a démarré par une baisse. Enfin non, pardon, le Borussia Dortmund a progressé, on le rappelle quand même encore. Plus 3,5% ce soir, Borussia Dortmund sur le marché allemand. Mais parmi les valeurs qui se distinguent, un peu plus grandes quand même, Téléperformance. Le titre Téléperformance, ce soir, gagne quasiment 14% après sa publication. Alors on le disait tout à l'heure, l'intelligence artificielle en bourse, ça fait un peu moins magique, quoi. Ça marche un peu moins qu'en début d'année. Et puis les valeurs qui avaient beaucoup pâti de l'irruption de l'intelligence artificielle tendent à remonter. En tout cas, aujourd'hui, Téléperformance gagne 14%. Est-ce que c'est la fin de l'enfer, on va dire, pour ce titre Téléperformance, Aymeric?
C'est une bonne nouvelle. La première chose, c'est que d'un point de vue opérationnel, ça tient. Ils ont réussi à faire de la croissance sur un effet de base très compliqué, alors que le marché attendait une décroissance. Les attentes sont très faibles et le marché attend moins que ce que le management a donné comme objectif pour l'année. Donc vraiment, il y a très très peu d'attentes sur ce titre-là, et c'est pour ça que la moindre bonne nouvelle est tout de suite sanctionnée ou récompensée par une forte hausse. Pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles structurelles qui tend à complètement rassurer sur le risque de disruption de leur activité. Donc c'est pour ça que pour l'instant, on reste neutre, nous, sur le dossier. Mais c'est clair que d'un point de vue valorisation, il n'y a plus grand-chose dans le titre. Donc chaque bonne nouvelle est bien récompensée. Et d'un point de vue opérationnel, ça tient, ça résiste et ils sont capables de faire de la croissance. Donc ça, c'est assez rassurant également.
Jean-Louis Cussac est avec nous depuis Perceval. Jean-Louis, d'un point de vue technique, hein, vous regardez vraiment le marché sous l'angle technique. Jean-Louis, plus 14% quasiment en clôture. Est-ce que ça peut néanmoins décoincer ce titre Téléperformance pour la suite?
Alors pour l'instant, non. Ça envoie un message plutôt positif, bien évidemment. Mais en même temps, cette volatilité extrêmement forte, c'est pas très sain. C'est jamais une bonne chose de voir un titre gagner 19, en perdre 10, en remonter 2. Vous voyez, d'abord, ça prouve que les avis sont divergents. Et on peut dire que la publication, c'est sûr qu'elle a rassuré les plus pessimistes. Mais elle n'est pas suffisamment bonne pour permettre aux autres de se dire bon bah il faut y aller. Enfin déjà les optimistes ils en ont un peu, mais est-ce qu'ils renforcent? Je pense pas pour l'instant. Et voilà, on est dans l'attente. Et sur le plan technique, c'est le message que ça envoie. Une digestion est nécessaire, plus longue. Et moi sur le plan purement technique, il faudrait que ça franchisse 110. Alors après on verra si ça dure un certain temps. Peut-être qu'on pourra baisser ce niveau de déclenchement, mais le gap du 7 mars après les nombreux précédents, il fait mal. Il y a eu énormément de volume à l'époque, même si là on revient sur un volume assez intéressant. Mais il fait même pas la moitié de celui du 7 mars. Ah oui. Donc voilà, c'est trop tôt pour y retourner immédiatement. Maintenant, le risque, je pense pas qu'il soit très important, mais sur le plan purement technique, non, c'est trop tôt. C'est le genre de situation où l'analyse technique va plutôt nous dire n'y va pas tout de suite. Voilà, c'est pas vend, c'est pas achète, c'est faut pas y aller maintenant. C'est pas le bon market timing.
Ne pas céder aux sirènes, même si ce titre a bien progressé ce soir, plus 13,8% Téléperformance. L'autre mal-aimé qui ce soir rebondit et revient à la surface, c'est Worldline. Worldline gagne aussi 10%. Là aussi, c'est la publication. Elle est saluée par le marché et notamment les services aux commerçants de Worldline qui retrouvent de la dynamique. Eric, est-ce que pour le coup, sur Worldline, vous êtes plus positif? Est-ce que vous dites que ce plus 10 peut déclencher une nouvelle phase de bourse peut-être plus favorable, Eric?
Moi, je reste quand même sur le sujet de la gouvernance sur Worldline. Hein. On a eu quand même des gros mouvements qui ont été annoncés au sein du conseil d'administration, avec donc un nouveau président, de nouveaux membres, des démissions des anciens membres, un resserrement du conseil d'administration. Donc, au-delà des résultats du trimestre, moi, ce qui me gêne, en fait, c'est quand même quelle va être la stratégie de Worldline une fois le conseil d'administration donc en place, c'est-à-dire à partir du 13 juin. Quelles seront les relations entre l'actuel directeur général, donc Gilles Grapinet, et ce nouveau président? Est-ce qu'il n'y aura pas des tensions ou pas? Donc je pense que, bon, tant mieux pour les résultats, c'est super. Le titre est au tapis, ça vaut vraiment 5 fois les résultats, donc c'est pas illogique qu'il rebondisse. Mais le sujet de gouvernance domine pour moi, et donc je reste à l'écart du titre, en attendant que ça soit plus clair sur la stratégie, et puis sur les hommes en place, parce que c'est ça qui fait une boîte, hein. C'est quand même des hommes qui sont en place. Et là, j'ai l'impression que Gilles Grapinet était quand même pas très bien suite aux dernières publications, à l'évolution du titre. Et ça me gêne de pas savoir. Donc, je reste à l'écart pour l'instant.
On vous rappelle la clôture ce soir sur CAC 40, moins 0,8%. On met en danger les 7914 ce soir en clôture. On évoquait aussi l'avenir de Total Energy, peut-être à Wall Street, on verra. On en parlait avec François Dossou pour Siena Gestion. Si vous avez raté le direct, c'était dans le club, au cœur du club tout à l'heure. Mais vous pouvez retrouver le replay sur notre application BFM Business. Vous allez dans les replays et dans le club de BFM Bourse. Les banques. Demain, Crédit Agricole et Société Générale vont annoncer leurs résultats. On sent un trend plus favorable désormais sur le secteur bancaire. On voit même une concentration d'ailleurs du secteur en Espagne. Mmh. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de ce secteur désormais, Aymeric?
Les banques ont très bien performé depuis maintenant quasiment 3 ans. Hein. C'est un des tout meilleurs secteurs sur la durée. Ils ont bénéficié d'une grosse... ça a été les premiers bénéficiaires de la hausse des taux qu'on a connue là, ces derniers trimestres. Nous, c'est un secteur sur lequel on a structurellement du mal parce que c'est dur d'avoir un véritable avantage concurrentiel dans ce secteur. Donc c'est pour ça qu'on a toujours été neutre prudent sur le secteur. Là, l'autre élément qui va jouer en défaveur, c'est que l'effet très positif de la hausse des taux va s'estomper dans les prochains trimestres. Donc ça nous rend un peu plus prudents. Mais après, c'est vrai que les valorisations restent raisonnables. On le voit avec cette acquisition avec une prime de 30% en Espagne. Mm-hmm. Donc les valorisations restent raisonnables. Il y avait aussi le plan de retour à l'actionnaire de 2 milliards d'euros qui a été mentionné tout à l'heure pour ING. C'est des signes que il y a beaucoup de trésorerie qui a été générée, des valorisations qui restent correctes. Donc voilà, avis plutôt mitigé sur le secteur,
oui, en ce qui me concerne. Parce que ça a déjà bien rebondi.
Parce que quoi. Ça a bien rebondi.
Ah, les valos restent basses.
Structurellement, oui. Les valos sont basses, mais structurellement.
Mais à 7 en moyenne depuis 7, pas.
Oui, mais on était plus bas 5. Il y a quelques temps, donc il y a eu du re-rating. Donc, et structurellement, c'est un secteur qui a du mal à créer de la valeur. C'est
ça. Oui, alors on voit début de mouvement de concentration en Espagne, BBVA et Sabadell, l'ensemble aurait plus d'1 milliard d'euros d'actifs quand même. De votre côté, Eric, ce secteur bancaire qui tente à surperformer désormais de plus en plus. Demain, Société Générale et Crédit Agricole vont publier. Comment est-ce que vous voyez ce secteur?
Moi, je pense que ça va rester bien orienté. Je pense que le Crédit Agricole devrait publier correctement. Toutes les expos d'Europe du Sud ont été bonnes jusqu'à maintenant. La BNP a bien publié. Donc, je pense que ça devrait bien se passer pour le Crédit Agricole. Il y a toujours un point d'interrogation sur la Société Générale, évidemment, hein, puisque même si l'environnement est favorable, depuis le Capital Market Day de septembre 2023, hein, le nouveau directeur général avait douché les esprits. Et pour l'instant, on n'a pas eu une forte amélioration. Est-ce que ce premier trimestre va être le point bas? Certainement. Est-ce que le marché va bien réagir? C'est à voir. En tout cas, il y a eu des mouvements. Hein. Donc, il y a eu des cessions qui ont été annoncées. Ça, c'est un point important. Ça fait remonter le corps capital. Il y a dans le réseau à savoir si on a les premiers effets bénéfiques d'un réseau restructuré avec le Crédit du Nord et Société Générale. On a aussi savoir s'ils ont baissé les coûts, si le risque a été bien géré. Et ce qui est sûr, c'est que la banque, elle vaut 0,3 fois sa book value, 5 fois de PER. Mmh. Et donc, au fur et à mesure que le temps va passer, la Société Générale va rentrer dans une dynamique favorable. Alors, est-ce que c'est à ce premier trimestre ou est-ce que c'est ensuite? Moi, j'ai pris quelques positions optimistes sur cette publication et bon. J'espère que ça portera ses fruits.
Merci à tous les deux. Eric Blaine, Swiss Life Banque Privée. Aymeric Lang, pour Erasmus Gestion. Merci d'avoir participé et un grand merci aussi à Jean-Louis Cussac qui nous accompagnait depuis Perceval. Dans un instant, Good Evening Business, Guillaume Paul. On vous rappelle que le CAC 40 ce soir a perdu 0,8%. Et puis toutes les réponses aussi aux questions que vous nous envoyez dans Culture Bourse. C'est chaque jour à 15h50. Culture Bourse, Julie Cohen-Horton et ses experts qui vous répondent en direct au cœur de l'émission. Le replay est lui aussi disponible sur notre application BFM Business. Bonne soirée à tous et à demain pour de nouvelles aventures.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.